Ce podcast est une production Blabla Studio.
Track Record, c'est le podcast qui donne la parole aux DJ. Vous entendez leur son partout, nous vous proposons ici d'écouter leur voix. Je suis Pauline de Saint-Sauveur. Après 10 ans passés en communication pour des grandes marques, je deviens rédactrice freelance, d'abord sur des sujets mode et beauté, puis je m'attaque à mon autre passion, la musique électronique. Track Record est né de cette envie, partager avec vous la découverte de personnalités tout aussi passionnantes que leur musique. Alors j'espère que vous aurez envie de monter le son et d'appuyer sur Play. Bonne écoute! Bienvenue dans Track Record, le podcast qui fait passer les DJ des platines au micro. Je suis Pauline de Saint-Sauveur et aujourd'hui, je reçois le producteur et DJ Jérôme Da Silva alias Damon J. Bienvenue à toi.
Bonsoir Pauline.
Un grand merci d'avoir accepté mon invitation pour ce 13e épisode de Track Record à l'occasion de ton retour à Paris, puisque tu seras ce soir au platine du Silencio pour la soirée Belle Époque aux côtés d'Edouard, que je remercie chaleureusement d'ailleurs d'être à l'origine de cet épisode. Pour essayer de te présenter rapidement à ceux qui ne te connaîtraient que de nom, ta première production date de 2006 et comme beaucoup de tes nombreux titres à venir, possède un nom surprenant, Ramon y Queso, jambon fromage, peut-être en hommage à ta ville natale de Bayonne, tu nous diras ça. Ce qu'il faut aussi souligner dans ton parcours, c'est que ta carrière de DJ a commencé bien avant, au milieu des années 90, mais que la rencontre avec la notoriété se fera bien plus tard en tant que producteur et en plusieurs temps. Le premier tournant a lieu en 2009 avec Eden Park, où tu passes d'une techno minimale à une signature plus légère, mêlant new wave et rock tout en restant très énergique. Le deuxième se fait en 2017 avec la sortie de Power to the People en collaboration avec Pardonne-moi, un morceau considéré comme l'étendard de la dark disco et qui cumule aujourd'hui 1 million de streams sur Spotify. Ce titre est devenu une bombe de club et a été joué par les plus grands, de Solomon à Adam Beyer. Il t'a également ouvert les portes de collaboration avec Agents of Time ou Adana Twins qui ont remixé certains de tes titres. Et enfin, la consécration avec la sortie de Behind Us en 2021 sur l'incontournable label correspondant aux côtés de l'un de tes binômes favoris, Darlin Vliss. Tu viens d'ailleurs de sortir une autre bombe avec lui cette année, Generation, sur son propre label qui s'appelle Polaris. Difficile de résumer 30 ans de carrière en quelques mots, je vais essayer en soulignant deux aspects qui m'ont frappé. D'abord ta prolixité, tu as produit 19 singles et EP et travaillé sur plus de 70 remixes depuis tes débuts, dont sur plus de 50 titres depuis 2017 seulement. Et ta deuxième caractéristique serait pour moi la fidélité, que ce soit avec Olivier Giacomotto dont on va parler, avec Darlin Vliss déjà cité, ou avec Jennifer Cardini, avec laquelle tu as multiplié les collaborations depuis 2021, notamment pour l'excellent Missing Love, réalisé avec un autre talent montant de la scène française, Léonie Pernet. Fidélité aussi au lieu où tu reviens régulièrement derrière les platines, comme ce soir pour Edouard et Belle Époque. Prolixité et fidélité, deux denrées rares dans un monde électro de plus en plus commercialisé, avec lequel tu sembles toujours parvenir à garder une saine distance. Comme un ovni depuis ta planète Damon J, tu nous rends régulièrement visite pour nous distiller un peu de ton univers, à la fois efficace et intrigant, fantaisiste et complexe, un arc-en-ciel de son que tu as construit à travers les années et qu'on a toujours plaisir à voir évoluer sans jamais pouvoir anticiper la prochaine direction. Un bonheur d'incertitude dans un paysage électro, parfois trop prévisible. Est-ce que ce portrait te convient ?
Quelle belle dernière phrase.
Merci.
J'aime beaucoup. Je vais la garder, je crois.
Ah, tu la gardes, parfait. Tu la gardes, picole, dans une note de l'épisode. Pour revenir à ton actualité, mais aussi à cette notion de fidélité qu'on a évoquée, qu'est-ce qui fait que tu aimes revenir jouer dans certains lieux en particulier ? Et est-ce que tu peux nous dire aussi un peu plus sur ta prochaine collaboration avec Darlin Vliss, Space Opera, que tu vas peut-être nous jouer ce soir ?
Alors, en ce qui concerne les soirées, ben, j'ai vraiment ce côté rapport amical. Si je m'entends bien, je joue beaucoup dans beaucoup de pays et des fois, il y a quelque chose qui se passe avec les gens. C'est avant tout le rapport humain. Ça, même si la soirée s'est pas forcément bien passée, mais si j'ai eu un très bon rapport humain avec la personne, je vais facilement revenir jouer dans un endroit. Et puis après, si la soirée s'est très très bien passée et que j'ai pris énormément de plaisir, ben, ça va être une autre option.
Ouais, mais c'est sur l'humain avant tout, en fait.
Mais c'est surtout sur l'humain, ouais.
Je vois. Et Darlin Vliss, pour le coup, c'est une collaboration qui date d'il y a très longtemps, en fait.
Vous êtes non, déjà... pas tant non, que ça. Ça fait à peu près 3 ans, je crois.
D'accord. Bien. Parce que vous avez tellement sorti de titres ensemble qu'en fait, on a l'impression que ça fait plus.
Exactement. On y reviendra d'ailleurs après. On y reviendra après. Ça fait 3 ans ouais, qu'on travaille ensemble. Et pour revenir à Space Opera, d'ailleurs, c'est pas du tout un EP en collaboration.
D'accord.
Non, c'est un EP solo. sur le label de Darlene Vispa.
D'accord, ok. Voilà. Donc on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans ton actu ouais, en fin d'interview.
C'est un peu le EP prémisse de l'album à venir, mais ça on va y revenir.
Génial. Et bah, on va faire une boucle temporelle, on va partir du présent et remonter plutôt loin, aux origines de ta passion, avant même que tu commences à être DJ, parce que tu as commencé il y a un moment, et t'étais DJ résident en Espagne, si je ne me trompe, au début de ta carrière, c'est ça?
Alors, ouais, exactement. J'ai commencé en 2001. 2001 à 2009, dans un club qui s'appelle Pagoa, en Espagne, qui est maintenant, feu Pagoa n'existe plus, depuis 2011, je crois.
Ouais, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que nous, enfin, beaucoup de gens te connaissent depuis ton EP sur correspondant, alors qu'en fait, ta carrière a commencé bien avant, et encore plus avant, en fait, tu as dit dans une interview que tu n'avais pas eu de formation musicale particulière, donc qu'est-ce qui a fait que tu es tombé dans la marmite de l'électro au départ,
alors,
avant ça?
Eh bien, adolescent, j'étais fan de rock, et donc je me suis mis à la guitare, et en fait, je jouais avec un groupe au collège. Donc j'ai commencé avec la guitare et j'ai commencé sur le rock. Et j'ai découvert les soirées électroniques aux alentours de 17 ans. Je me suis retrouvé avec mon cousin par hasard dans un club en Espagne. Et ça a été le choc. J'ai décidé directement, ouais, c'était... En plus, faut remettre le contexte, que c'était au milieu des années 90. C'était vraiment assez nouveau. On n'en parlait pas beaucoup. Dans les médias, c'était pas forcément...
C'était l'underground tel que, quoi.
C'était pas forcément exposé. Donc, quand on découvrait, on pouvait arriver dans un endroit et que ce soit vraiment complètement nouveau, en fait. C'est ce qui s'est passé pour moi. Et voilà, j'ai décidé de faire ça.
Et en rapport avec la New Wave, pour toi, est-ce qu'il y a eu un lien tout de suite ou c'est venu après?
Non, c'est venu plus tard. En fait, j'aimais le rock. J'aimais un peu tout ce qui se faisait en rock.
Okay.
Pour moi, ado, quand j'écoutais The Cure, pour moi, c'était rock, en fait. C'est après, plus tard, avec plus de background, que j'ai compris que c'était aussi affilié à la New Wave. J'ai découvert Depeche Mode, Joy Division un peu plus tard.
Plus tard, ok. Donc, c'est pas dans ta formation. Enfin, au départ,
non,
que tu jouais à la guitare, quoi.
Non. J'étais vraiment plus rock, voire même metal.
Ok. Et tes premières découvertes électro, du coup, à la suite de ça, où t'as été, bah, tu t'es dit, je veux faire ça. Et comment ça s'est passé, en fait?
J'ai continué à sortir un peu en club. Je commençais à sortir tous les week-ends. Et après, j'ai commencé à mixer assez vite, peut-être 6 mois après avoir découvert ça en club. J'ai commencé à acheter mes premiers vinyles, mes premières platines. Et assez vite, en fait, parce qu'à l'époque, c'était une espèce de trance progressive dans les clubs en Espagne. Et assez vite, j'ai voulu découvrir autre chose. Donc j'étais chez les disquaires, j'ai commencé à acheter des magazines parce qu'à l'époque Internet n'était pas du tout comme maintenant.
Ouais.
Donc c'était ou la presse ou les petits magasins, quoi. Donc je suis passé assez vite à la techno pour assez vite découvrir l'électro. Et dès 2001, je pouvais mixer de techno à électro clash. C'était le début de l'électro clash avec Miss Kitty Jacker.
Oui, je vois très bien, ouais, Frank Sinatra.
En 2001, j'avais un magasin de disques. Dans les 5 ans en fait où j'ai découvert la musique électronique et le début de ma résidence en club, j'ai monté un magasin de disques.
Ah ouais, carrément.
Ouais, donc du coup, voilà, avec le magasin de disques, j'ai découvert tout un tas de styles. Et c'est là que j'ai commencé à forger un peu
ton identité, ouais.
Et assez vite, 2001-2002, j'ai commencé la prod. Tant bien que mal, parce que faut imaginer, petite ville, dans le sud, au début des années 2000. Les tutoriels sur Internet, ça n'existait pas.
Oui.
Il y avait personne qui produisait dans la ville.
Et pas de bar forcément où jouer non plus, ou si?
Bah, y avait des clubs où jouer, mais surtout en Espagne, en fait.
D'accord.
Bah, du coup, c'était de la galère un peu au début.
Ouais, et d'où le passage en Espagne, en fait, pour devenir résident, parce que c'était pas trop possible là où t'étais.
Mais en fait, j'habitais à 20 minutes de la frontière. Donc, du coup, en fait, tous les jeunes à cette époque-là, on allait tous en Espagne, en fait. Il y avait pas les clubs qu'il y avait du côté français, c'était des clubs généralistes, on s'en fichait complètement. Donc du coup, on allait dans les gros clubs espagnols. On se retrouvait tout un groupe de Français là-bas.
D'où le Ramón y Queso, alors?
Alors ça, non, ça c'est bien plus tard.
C'est après.
Ok. Ça vient plus tard.
Mais c'est pas un clin d'œil à cette période-là ou justement? Non, pas du tout.
Non. C'est, alors comme tu disais, ça peut être un clin d'œil à la ville, mais c'est plutôt un clin d'œil à la région où j'habite.
D'accord.
Frontalière de l'Espagne.
Ah,
d'ailleurs, pour revenir à ça, à Ramón y Queso, on était, mais avec Olivier Giacomoto.
Prochaine question.
on était dans un bar à tapas en Espagne et on venait de finir ce track. C'était en 2005 ou 2006.
Ouais, donc c'est bien après, effectivement.
On venait de finir ce track et puis on mangeait des tapas et on se regardait, on cherchait un nom, là, comment on pourrait appeler le track. Et on avait tous les deux un tapas de Ramón y Queso dans la main. Et on s'est regardé et on a fait, ah, Ben, allez, hop, Ramon y Queso, allez, c'est un classique de, des tapas espagnols avec du jambon ibérique.
Et,
voilà.
Et vous vouliez faire un classique, un morceau qui pourrait devenir un classique, donc un classique et, pour un classique.
Et qui est devenu un classique.
Bah oui.
Donc du coup.
Canon. Et d'ailleurs, bah, on va parler d'Olivier Giacomotto, justement. C'est un de tes grands amis aussi. Comment est-ce que vous êtes rencontrés et quel rôle il a joué pour toi? Ah, il joue encore.
C'est Olivier, c'est mon ami, mon mentor. J'ai tout appris avec lui, en fait. Comme je disais avant, j'ai commencé en 2001-2002.
Ouais.
En bataillant, je me suis acheté un ordinateur, quelques machines. Et, à l'époque, c'était hyper compliqué, en fait. Et j'ai rencontré Olivier en 2005, je crois, si je me souviens bien. Il habitait à Bordeaux à l'époque. Il est venu voir un artiste qui jouait dans notre club. Et on a sympathisé. On s'est dit, bon, bah, on herbite pas loin, pourquoi pas faire de la prod ensemble. Et ça a commencé comme ça. Et lui, en fait, a eu l'occasion, quelques années auparavant, d'étudier la production dans un studio londonien. Donc, en fait, il avait énormément d'avance et de...
De bouteilles sur le truc.
Ouais, de bouteilles et de techniques. À l'époque, si on n'apprenait pas ça ou ça dans une formation spécifique ou dans un studio... C'était assez difficile d'apprendre ça comme ça.
Oui, encore une fois, il n'y avait pas de tutoriel. Donc oui,
tutoriel,
on remet dans le contexte de...
Ouais, c'est ça, il faut remettre dans le contexte. Il n'y avait pas de tutoriel, c'était où on achetait des magazines, où on avait un copain d'un copain qui connaissait quelque chose. Enfin, c'était très compliqué à l'époque.
Ouais.
Et donc, du coup, on a commencé à coproduire, à produire ensemble. J'ai tout appris avec lui. Franchement, c'est au niveau production, c'est mon mentor. Quoi. Et puis plus tard, après, à partir de 2009, je me suis lancé tout seul.
Et du coup, oui, parce que là, on est en 2009, mais j'ai l'impression qu'il y a eu aussi une grande évolution récente depuis Behind Us en 2021, ouais. Qui était la grande sortie sur Correspondant, où après, tout le monde a commencé à parler de Damon G. Parce qu'avant, il y avait des gens qui te connaissaient, mais c'était un peu entre experts. Et par contre, cet EP, il a fait que... Enfin, en gros, t'as eu une très, très grande notoriété. Et j'ai l'impression que ton son depuis, du coup, parce que maintenant que tu produis tout seul, etc., il a encore en plus pas mal évolué depuis ce Behind Us. Et c'est quoi le nouveau chapitre qui est en train de s'écrire un peu depuis ça?
Alors, on va repartir.
Oui, vas-y, repars, je t'en prie.
Donc avec Olivier, en 2005, on avait deux influences différentes. Lui venait plus de la techno, moi j'avais un côté plus électro, voire minimal. Et donc on a décidé de mixer un peu les genres qu'on aimait, ouais, et d'essayer de faire quelque chose d'un peu différent. C'est ce qui s'est passé, parce qu'on fait partie des gens, en fait, des producteurs qui ont créé le mouvement qui est devenu... Mouvement Electro House après, qui est parti après un peu trop commercial, mais à la base, au départ, c'était une musique de niche aussi, quoi. Et dès le premier morceau, ça a cartonné, donc Ramon y Queso, Walking on the Moon,
ouais.
Et surtout le remix que j'avais fait avec John Acquaviva pour un EP d'Olivier, en fait, où là on est arrivé à meilleure vente de l'année, Vie sur Beatport. Ça y est, Beatport en 2006,
ouais.
ça commence.
Ça existait déjà, oui.
Meilleure vente de l'année, tout style confondu, du 5000 vinyles. Enfin voilà, on était. C'était très, 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 très gros. J'ai commencé à tourner d'ailleurs un peu au niveau autre que
français.
Que Espagne, France, au niveau mondial à ce moment-là. Et puis au bout de 2-3 ans, donc on arrive vers 2008-2009, je me retrouvais pas en fait dans ce style-là en fait. Je faisais ça avec Olivier, mais en fait. Je sentais que ça ne me correspondait pas. Donc, j'ai pris une décision un peu radicale. J'ai décidé de tout arrêter de ce style-là et de me mettre à bosser tranquille, tout seul, dans mon studio, de me chercher moi-même et de chercher vraiment...
C'était quoi la nouvelle histoire que tu voulais raconter,
voilà,
quoi.
Voilà.
C'est ça, Eden Park, du coup?
Non, Eden Park, c'est à la fin, un truc de transition.
Ok.
Où je savais pas où je voulais aller.
Ok, qu'on comprenne bien dans ta discographie.
Et donc, entre Eden Park et vraiment le premier EP, qu'on peut dire, pour moi, Indie Dark Disco,
ouais.
Qui est sorti en 2014, si je me souviens bien, c'était sur Days of Being Wild. Voilà, entre 2014 et 2009, il y a un passage à vide où j'ai fait des morceaux, mais où vraiment où je cherchais ma nouvelle direction. Et là, j'ai fait une espèce de travail d'introspection un peu, où je recherchais quelles étaient mes influences. Et en fait, j'ai refait un travail sur moi, sur le passé, tout ce que j'avais aimé, donc le rock. C'est à ce moment-là que la New Wave est apparue pour moi, en fait. Où ça découlait du rock avec de la musique électronique. Et il y a un artiste vraiment qui, à ce moment-là, a débloqué et qui m'a donné la piste.
L'impulsion de
faire ça. L'impulsion, et jusqu'à maintenant, en fait, c'est Andrew Waterhol. C'est vraiment l'artiste qui m'a...
Pivot, quoi.
J'ai découvert en 2009, et à force de manger un peu ce qu'il faisait, plus mon côté rock, plus mon côté... que j'ai mixé l'électroclash pendant des années, plus la new wave, etc. J'ai eu du mal un peu à fusionner tout ça, mais la sauce a commencé à prendre sur le premier EP, sur Daisy O'Bee Newell, en 2014. Et puis après, c'est parti tout seul.
Oui, donc là, on parle vraiment du dark disco et de ce qui a été...
Voilà, dark disco, c'est pas 2019, hein, 2000 dark disco, c'est... j'ai envie de dire, c'était même déjà là, en fait, c'est juste...
C'est un aspect que t'as plus mis en valeur dans ce chapitre-là, quoi. Et est-ce que c'est un terme qui te convient, et pourquoi? Parce que ça a été mis à une certaine période, mais finalement, comme tu le dis, c'était quand même dans ton travail aussi, en gestation d'une certaine façon, depuis le départ. Bah, on le sent un peu.
Alors, en fait, je sais pas si on peut vraiment affilier ça... Dark, c'est pas forcément dark, et c'est pas forcément disco non plus, mais j'ai bien aimé le terme. En fait, j'ai entendu ça la première fois quand j'étais joué en Turquie. Le promoteur, qui est DJ aussi, il me dit « Ouais, il me dit, ouais, franchement, t'es vraiment le fondateur de Dark Disco. » C'est la première fois que j'entendais le terme. Je suis « Dark Disco, ah ?»
De quoi me parles-tu ?
Ok, ben écoute, ouais, peut-être bien. Je suis content que ça te plaise, en tout cas. Et en fait, quelques mois après... C'était bien 6 mois après, hein. J'ai vu dans une interview, je sais plus si c'était Trax ou Tsugi, qui a commencé à parler de ça, en fait, et qui a nommé le terme Dark Disco.
Et du coup, comme c'est des magazines de référence, après,
qui a nommé le terme Dark Disco, et peut-être 6 mois, encore 6 mois après, ça a mis un an entre le moment, la première fois où j'ai entendu Dark Disco et le style qui a commencé à arriver sur Beatport, sur certaines plateformes, qui s'est mêlé à l'indie dance. Ça a pris bien au moins une bonne année. Ouais.
Mais ce que t'entendais, ça correspondait à ce que toi, tu...
Oui, ouais, alors je trouve très bien qu'ils aient collé Indie Dance et Dark Disco. Je pense que ça, à cette époque-là, ça se mêlait très très bien. C'était vraiment cohérent parce que Indie, il y a beaucoup de morceaux dans ce style-là qui ont un côté un peu pop avec des guitares, pas forcément des guitares hyper rock et des bons vocaux, un peu new wave. Et je trouve que ça faisait le lien, ouais, vraiment, vraiment, vraiment.
Et ouais. Aujourd'hui, peut-être moins, par contre, c'est plus séparé.
Alors, on aborde le sujet.
On y est.
On y est. Aujourd'hui, je trouve beaucoup moins. Beaucoup moins. Le Covid est passé par là et le Covid, à mon sens, n'a pas fait du bien.
C'est-à-dire ?
N'a pas fait du bien parce que... En fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrivés de d'autres styles, qui ont vu que les indies, ça sortait un peu de la niche pour devenir un peu hype. Et il y a... beaucoup d'artistes qui sont venus de Tech House, de Mélodique, et qui ont essayé de... Mais sans avoir le background de ce style-là,
oui.
En fait. Qui ont essayé de faire un truc un peu dans ce style-là.
Sans la fameuse introspection dont tu parlais avant, en fait. C'est juste d'arriver et de balancer un morceau, quoi.
Et le problème, c'est que les plateformes les ont directement mis, en fait, dans ce style-là, sans faire l'effort un peu de dire « Bon, c'est pas vraiment une idée, c'est ou dark disco, cette histoire. » Et du coup, ça, il y a une masse énorme avec le Covid, de gens qui ont arrêté de travailler, donc qui avaient du temps de produire. Donc du coup, il y a une masse énorme qui est arrivée en milieu fin de Covid, parce qu'au début, tout le monde était un peu frileux, personne ne sortait plus rien. Il y a une masse énorme de nouveaux morceaux, complètement... C'était pas dans... Pas vraiment... Moi, je considère pas dans ce style, en fait.
Oui, bah oui, qui aurait dû être ailleurs et qui sont retrouvés là, en fait.
Voilà, et donc qui ont enlevé de la visibilité à beaucoup d'artistes, moins à ceux qui étaient là depuis le départ, comme moi, ou comme Curses, ou d'autres gros dans ce style-là. Mais pour les petits, c'est plus compliqué, en fait.
Ouais, non,
ceux qui avaient vraiment ce background-là, mais qui démarraient, et ils ont été noyés dans la masse, et pour sortir du lot, maintenant, ça devient un peu difficile. Après, je relativise, parce qu'il y en a, j'en connais, et il y en a qui viennent de d'autres styles, qui ont très bien fait la transition, qui ont très bien fait le virage. Comme quoi, enfin, il y a du bon, il y a du moins bon, mais...
Oui, mais il y a eu trop de masse, en fait. C'est juste ça, le sujet.
Ouais.
Et pour toi, les artistes référents, aujourd'hui, en indie et en dark disco, en dehors de toi, enfin, des gens où tu te dis, par exemple, je suis sur un line-up avec eux, je suis trop content de jouer parce que, justement, on a des similitudes, et puis, enfin, c'est des gens avec qui j'aime travailler. Alors, ce serait qui ?
Jennifer, déjà.
Bah oui.
Jennifer Cardini. Curses aussi, Reboyedo aussi. Et après, dans des styles un peu différents, pas vraiment forcément indie, mais j'aime beaucoup Ivan Smag aussi. Bah, avec Chloé, j'ai joué il y a pas longtemps, hyper bien aussi. Voilà, c'est des gens avec lesquels je suis fier de jouer. Ouais.
Non, je comprends. Et Léonie Pernet, avec qui tu viens de travailler, elle est dans. Pour moi, elle est un ovni, elle est très très difficilement catégorisée. Enfin, on a du mal à la mettre dans une catégorie.
Ouais.
Et c'est un peu pareil, c'est quelqu'un où justement elle a un talent et tout, mais on n'arrive pas à dire elle est ci, elle est ça, alors qu'elle a justement une très très grande force d'expression.
Et c'est ça que je trouve génial, et c'est ça que je veux continuer, en fait. C'est que j'avais créé mon propre truc à l'époque, après avec une autre communauté qui on est tous devenus une dance d'art disco. Mais maintenant que ça devient un peu trop hype, je trouve, pour moi, c'est déjà le temps de déguerpir, en fait.
Il faut inventer autre chose.
Il faut inventer autre chose, exactement. Et c'est pour ça que tu me disais, je trouve que en ce moment, ton son évolue. Je suis en mode recherche, c'est pour ça aussi que j'ai lancé un album, en fait.
D'accord.
Que pour la première fois, je me suis dit, il est peut-être temps que je lance un album parce que j'ai envie de travailler en profondeur sur mon évolution, en fait.
Oui, et d'être dans une recherche encore différente, justement.
Exactement. Et j'aime bien ce côté recherche, aller de l'avant, pas faire comme les autres, essayer de trouver
des nouvelles. Ah bah là, on est à l'opposé, justement. Au lieu de balancer un morceau, tu travailles tout un album. Donc ça va être exactement le contraire de ce qui se fait aujourd'hui où tu balances un morceau et un. Là, c'est voilà. Justement le contraire. C'est d'aller à contre-courant, quoi.
Après, c'est vrai que cet album, j'ai un rapport vraiment, comment dire, un peu pas spécial, parce que c'est pas spécial, mais j'aime bien les gens qui me suivent, donc du coup j'ai pas envie de perdre les gens qui me suivent, donc du coup l'album, je vais pas non plus faire quelque chose de complètement différent, c'est-à-dire je vais garder quand même ce côté que j'ai maintenant, indie dance, d'art disco, forcément c'est en moi, et je vais juste faire une évolution petit à petit. Il y aura des choses vraiment différentes, mais dans l'ensemble ça va garder ce côté quand même assez club, rock, new wave, etc.
T'avais expliqué dans une interview comment tu construisais un track, et c'était assez, y avait vraiment une construction. Alors d'abord, enfin, t'avais plusieurs phases, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, t'as aussi peut-être une phase de construction qui est différente de ce que t'expliquais en 2017, du coup. 2019, ouais. Et donc, comment tu fais ça? Parce que justement, tu vas peut-être le garder sur cet album pour avoir ton chantier de base et que tu vas ensuite modifier.
J'ai pas une seule façon de faire. La plupart du temps, je commence par vraiment essayer de trouver l'idée. Des fois, je sais exactement vers où je vais aller. Il suffit que j'ai joué dans une soirée, un week-end, et que je sais pas pourquoi, sur un morceau, j'ai ressenti un feeling qui fait ça me donne une idée sur le moment. Ça peut être, donc je peux arriver au studio et me dire je sais ce que je veux faire, et j'arrive à trouver ce que je veux faire. Et puis des fois je suis en recherche, je suis tout simplement, je sais pas vraiment vers où je veux aller, ça arrive. Et là j'ai quelques synthés que j'aime en ce moment. Je commence à bidouiller, chercher, puis en général, l'idée vient. Ça peut être un film aussi, des fois.
Ça peut être un film. C'est plus visuel aussi, parce que ton univers est assez visuel, finalement, quand on regarde.
Visuel, mais ça peut être aussi un film, ça peut être l'environnement sonore d'un film.
Ok.
Ça peut être une série. Je regarde un épisode d'une série et j'entends quelque chose. Alors, des fois, je suis obligé de regarder deux fois l'épisode parce que je me suis focalisé sur la bande-son.
Et t'as plus vu l'épisode, du coup, c'est plus ce qui se passe, quoi.
L'épisode, mais ça peut être un truc comme ça, quoi. Et une fois qu'il y a l'idée, en fait, l'idée construit la track. Au moins une première trame de track, et c'est en développant l'idée que je vois si s'il y a assez de rythmique, donc il faut rajouter de la rythmique, si il faut compléter un peu avec de l'effix. Bon, le processing, c'est encore autre chose. Après, il y a une première construction qui est la deuxième étape, vient de finalisation. Et le mix se fait en même temps que la construction. Je connais beaucoup d'artistes qui font ça après. Moi, ça, j'y arrive pas.
Ouais, tu fais en concomitant, quoi. C'est en même temps.
Je fais tout en même temps. J'estime que quand je mets un son, il faut déjà qu'il soit à sa bonne place. Pas que je revienne après, le mixer, machin. Une fois que tout a été fait, tout construit, j'aime pas ça.
Parce que j'ai l'impression, moi, que ton son, il a pris aussi de la texture aussi par rapport à tes débuts. Justement, t'as expliqué ce changement quand t'as décidé d'ouvrir un nouveau chapitre et genre de retravailler à partir de entre 2000, tu m'as dit 2009, ouais. Où t'as commencé à retravailler avec cette nouvelle direction. Ouais. Et on a l'impression que ton son, il s'est épaissi, qu'il a pris de la consistance. Et au fur et à mesure qu'on t'écoute, c'est de plus en plus, ça raconte de plus en plus quelque chose d'épais. Enfin, c'est dans l'épaisseur, quoi. J'ai l'impression. Alors peut-être c'est moi.
J'ai pris l'expérience. D'expérience, parce que comme tu disais, je sais même plus combien de tracks et de...
j'étais sur Discogs, j'ai cherché et tout.
T'as bien travaillé parce que franchement moi je savais plus. Donc oui, il y a l'expérience. Puis dès que je sens que je suis coincé dans une évolution technique ou que je suis dans le brouillard, que j'arrive pas à trouver la solution au problème que j'ai, que je recherche à avoir tel type de son et j'y arrive pas, ben voilà, j'ai un mentor. Donc je lui passe un petit coup de téléphone. Il a souvent la solution. Et c'est pour ça que c'est mon, ami d'ailleurs.
Et puis il te connaît très bien aussi, donc.
Voilà, on se connaît très bien, on a travaillé longtemps ensemble. Mais voilà, c'est l'expérience. Et voilà, faut pas hésiter de demander à ses amis quand il y a besoin.
Ouais, non, on est d'accord. Et sur justement les hésitations, t'as eu quand même des moments certainement de doute. Puis tu nous as parlé de cette période d'introspection et de où t'as vraiment tout arrêté pendant quelques temps. Est-ce que tu voudrais nous en parler d'une autre ou de celle-là? Et puis surtout, comment t'as réussi à surmonter ça? Parce qu'il y a toujours des moments dans la carrière d'un artiste où c'est plus compliqué. On se dit, est-ce que je dois tout arrêter? Et puis les autres, ils font ça. Et puis moi. Et puis comment je vais faire? Enfin, et comment est-ce qu'on arrive à... Comment toi, t'as réussi à passer ces moments-là?
Voilà, ça fait plus de 25 ans. Des moments de doute. J'ai envie de dire, il y en a tout le temps. Mais il y a des passages plus forts que d'autres. Et ça fait, c'est inhérent à la carrière d'un artiste. C'est obligatoire, on y passe tous. Des moments de doute. Ou alors celui qui n'a pas de doute.
Peut-être qu'il s'inquiète, non?
Ouais, faudrait peut-être qu'il s'inquiète.
je pense.
Mais c'est des passages de doute. Voilà. Là, comme on disait, en 2009, c'était un passage de doute, mais c'était plutôt que je ne me sentais pas en phase avec ce que je faisais. Parce que à cette époque-là, avec la coproduction que je faisais avec Olivier et John Acquaviva, je commençais à tourner beaucoup. Donc j'ai décidé de tout stopper. En fait, j'étais invité dans les soirées pour une musique qui me correspondait.
Tournait pas, exactement.
Donc en fait, je ne me trouvais pas en phase et c'était pas très bien. C'était pas bien, je le vivais pas bien en fait.
On a eu la même chose avec Patrice Baumel, épisode 11, exactement la même phrase.
Voilà.
Qu'à un moment, il se voyait dans le miroir, il disait c'est plus moi en fait, il y a un truc, je me vois plus que jouer moi, il y a un truc qui va.
Ouais, c'est ça. Je pense qu'on y passe. À certains moments de longue carrière, on y passe quoi. Et donc, il faut avoir le courage et se dire bon, ça va pas, et je repars à zéro quoi. Je repars à zéro, c'est dur, ça peut prendre du temps, mais en fait, si on arrive à passer ce cap.
Ça en vaut tellement la peine derrière.
De repartir à zéro, bah ouais, ça vaut vraiment la peine, quoi.
Ouais, surtout quand on voit ce qu'il y a eu après, dans ton cas, c'est waouh.
Et la deuxième période, vraiment grosse période de doute, est arrivée à l'approche de la quarantaine, bizarrement.
Ça, comme beaucoup de gens, là, c'est même pas une histoire d'artiste, c'est une histoire de plus humaine aussi, quoi.
C'est pas des doutes artistiques, mais un peu si, parce que c'est arrivé à 39 ans, donc c'était à peu près il y a à peu près 5 ans. Je me suis posé des questions existentielles. Voilà, je suis arrivé presque à la moitié de ma vie, ou à la moitié de ma vie. Qu'est-ce que j'ai fait? Les questions bateaux. Qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais avoir une retraite? J'ai pas gagné énormément de ma vie jusque-là. C'était compliqué. Est-ce que c'est le moment d'arrêter et de passer à autre chose pour que quand même, un jour, je puisse avoir une retraite et pas finir dans un mouroir? Enfin, je sais pas, c'est des questions difficiles de la vie, mais qu'on sent. Voilà, moi, à cet âge-là, je me suis posé. Et ça a duré un an, presque, cette histoire.
Et t'as arrêté de jouer pendant ce temps-là?
Non, je jouais, je continuais à produire, mais je sentais que j'étais avec le frein à main, en fait. Et le jour où je me suis dit, bon, j'ai fait tout ça jusque-là, hein, j'ai fait 20 ans, ça fait 20 ans que je fais ça, j'ai tout donné, ça a eu du mal, ça fait 20 ans que je galère. Ainsi va la vie, on y va. Je me pose plus de questions. J'y suis arrivé jusque-là, j'y vais, quoi. Et à partir du moment où j'ai décidé ça, il y a eu une espèce de déclic. Et là, la carrière, en quelques mois, elle a fait
boum, voir de l'intention.
Ça a fait boum. Maintenant, il faut que je rattrape 20 ans avec les 20 prochaines années.
Oh, bah là, vu comment c'est parti avec tes productions, là, je pense que dans 5 ans, c'est bon, quoi. T'es tranquille. Tu feras plus que du. Enfin, comment dire? C'est de la gratitude, quoi.
Non, je ne veux pas.
Non, mais vraiment. Non mais justement, tu continueras toujours, mais t'auras plus de genre de, ce sera fini quoi. Vu que là, tu te l'es dit une fois pour toutes, et effectivement, ça s'est passé. C'est un peu, enfin, on en a parlé avec Patrice Baumel. C'est un peu la même chose. C'est pas le moment où t'avais décidé que là, t'y vas et que tu regardes devant et que tu te poses plus de questions. Bizarrement, on veut travailler avec toi. Tu produis d'autres choses. T'es content de ce que tu produis. Ça se passe bien. Enfin, c'est comme si tout se débloquait quoi.
Ouais, exactement.
Donc, de toute façon,
jusqu'à la prochaine période de doute.
Voilà. Parce que qui sera sur un sujet différent encore.
Voilà, ouais, il faut pas se leurrer. Je sais très bien, je suis conscient que ça pourra arriver encore. Ouais.
Oui, alors juste pour info, on est dans un resto, donc au sous-sol d'un resto pour enregistrer l'épisode. De temps en temps, il y a des petits bruits, donc on s'excuse par avance du montage qui sera un peu moins clean que d'habitude, mais c'était juste pour qu'on soit aussi au chaud, parce qu'au moment d'enregistrer cet épisode, dehors, il fait moins 3. Voilà, donc on va te poser une question qui est un peu moins dans la carrière. Qu'est-ce que tu écoutes quand ce n'est pas de la musique, Jérôme?
Bon, je vais dévoiler un peu de ma vie quand même.
C'est le but.
J'écoute les petits gazouillis, les petits AE et les petits papa de mon bébé.
Ah, c'est génial. Mais tu les as enregistrés ou pas? Parce qu'il y en a.
Non, non, je les ai pas enregistrés. Mais c'est vrai que la semaine, je suis quand même beaucoup à la maison. Je me suis beaucoup occupé de mon petit bébé. qui a 14 mois.
Ah oui, donc félicitations.
Merci.
Je ne savais pas. Alors que j'ai posé une dernière question quand même qui a complètement un rapport sans savoir, hein, quand même le dire.
Oui. Voilà, j'en en dirai pas plus pour l'autre question.
Ça marche, mais c'est déjà c'est un bruit tout à fait, comment dire, et naturel et qui change de la Tartis cause exactement la même chose. Pour terminer sur ton actualité, donc on va te voir ce soir au Silencio derrière les platines. Tu nous as aussi parlé de cet album qui est en préparation. Et est-ce qu'il y a d'autres projets qui arrivent pour 2023? Donc il y a l'album, il y a une collaboration aussi. Enfin, tu sors un titre chez Darlin Rees sur Polaris. Et j'ai vu aussi un visuel passer très très joli avec toi au milieu d'une fusée. Voilà, c'est un rapport aussi.
C'est le visuel du EP sur Polaris.
Sur Polaris, ok.
Ce EP, c'est vraiment l'amorce de l'album. Parce que c'est, sur ce EP, j'avais déjà commencé ce travail d'aller un petit peu plus loin, d'essayer de trouver un peu des nouvelles pistes. C'est pas, avec pas toujours les mêmes drums, les mêmes basses qu'avant. Donc c'est le premier EP de travail de l'album, en fait.
Génial. Donc c'est le début de ce travail-là. Et ouais, l'album, du coup, là, t'es en train de travailler dessus, en fait.
Je travaille dessus. Travaille dessus. J'espère que ça sera fini début d'année, pas février-mars. Ouais.
D'accord. Et t'as des tournées à côté en plus.
Il y a quand même déjà pas mal de titres. Ouais. Donc,
Ah oui, qui sont prêts, ok.
Ouais, il y a quand même déjà quelques titres. Je vais en tester même 2-3 ce soir.
Ah, génial.
Donc voilà. Ceux qui sont jouables, bien sûr.
Et oui, et Jérôme nous a préparé en plus hyper gentiment. Il y a un titre qu'on pourra utiliser en jingle normalement. Et il y aura aussi une playlist où, à mon avis, on aura quelques petites découvertes aussi.
Exactement. Et ça, pour les autres sorties, autres que... Il y aura sûrement, courant de l'année, un EP sur mon label, parce que j'ai un label aussi, Dust and Blood. Il va y avoir quelques nouveaux artistes que j'ai découvert. Un artiste que j'ai découvert à Milan, quand j'ai joué à Milan, qui s'appelle Shadow and Eye. C'est très rock hippie.
D'accord.
Un peu la rabouillée d'eau dans les premières heures, avec un remix de Nivast et de Milo, et après un gros EP de Kim Cheese, avec vocaliste et vraiment indie rock et tout, super bien.
Ouais, donc encore beaucoup de productions de Jérôme pour l'année 2023.
Ça c'était pas les miennes, ça c'est sur mon label.
Oui, mais t'as tes collaborations, tes productions. Enfin,
Et avec Darlin Rees, pour l'instant, on en parlait tout à l'heure en fait, on a bossé pendant 3 ans ensemble. On a trop bossé. C'est-à-dire qu'on s'est un peu oublié l'un et l'autre. Donc on a fait une petite pause. Parce que j'avais besoin de refaire un EP, justement, retravailler un peu sur moi, et lui pareil. Mais
ils ne sont pas fâchés du tout.
Non, pas du tout. C'est juste une pause d'ailleurs. D'ailleurs, il va faire certainement un futur sur l'album. Il y aura sûrement Moderna aussi.
Ah, trop bien.
Il y en aura d'autres. Je peux pas dire encore. Il faut que ce soit sûr.
Ok.
Cela c'est sûr. Et il y aura ma conjointe aussi.
Ah, génial. On a hâte.
Qui est artiste aussi.
Et qui produit ou qui...
Qui vient de sortir son premier remix.
Ah, génial. Bah, on la mettra dans ta playlist du coup.
Exactement.
Ma dernière question bonus track. Du coup, j'aimerais savoir comment tu arrives à garder un équilibre entre ton activité de super producteur et la vie en famille que tu as sans te laisser happer par le travail et ou le succès. Parce que c'est très difficile de faire ça, surtout quand on produit beaucoup. Bon,
je vais en parler sans trop en parler. J'ai déjà parlé un peu trop de ma vie privée. J'aime pas trop ça.
Mais ta recette d'équilibre, c'est quoi?
Ben surtout maintenant, vie de famille la semaine. Le bon côté du musicien, c'est que la semaine, il est là. Bon, je travaille tous les jours en studio. Maintenant, je peux retourner enfin travailler tous les jours en studio. Parce que les 6 premiers mois avec bébé, c'était pas possible.
Non, c'est clair.
Après, voilà, ma femme travaille le week-end. Moi, je travaille le week-end.
Ouais.
Heureusement, on a les parents qui aident.
Et au niveau de ton équipe, ils savent, par exemple, quand tu tournes et tout ça, il y a quand même des impératifs. Par exemple, certains jours, tu sais, ils savent que voilà, il faut pas te booker pour certains trucs. Ou...
Non. En général, on s'arrange. Il y a juste là, pour la période de Noël, par exemple, je reste en famille. J'ai pas pris de date pour les week-ends de Noël parce que c'est vraiment le week-end famille. Janvier aussi, c'est comme de toute façon c'est un mois creux pour tout le monde. Et ben, c'est famille hein, pendant 3 semaines. On va certainement aller à la montagne.
Ouais. Du bien. Donc t'évites d'aller, enfin d'être trop non plus dans voilà. Un non-stop de tournée quoi aussi.
Voilà, quand on peut, ma femme elle vient avec moi de tournée.
Voilà.
C'est ce qui s'est passé il y a 2 semaines.
Ok.
Elle est avec moi en Amérique du Sud.
Bah voilà, donc oui, c'est aussi une bonne recette, c'est de pas voyager forcément tout seul non plus.
Voilà, voilà. Et voilà, pour l'instant.
Ça gère.
Voilà, j'en dirai pas plus.
Non, mais merci en tout cas d'avoir partagé tout ça avec nous, parce que il y a pas mal de gens qui se posent la question de comment on peut produire autant et gérer une carrière et en même temps avoir une vie de famille, parce que tous les artistes ne peuvent pas avoir une vie de famille en fait.
Mais j'en connais bien, bizarrement, j'en connais de plus en plus.
Parce que t'en as une.
Oui,
forcément.
Oui, mais je connais d'autres artistes qui le vivent comme ça aussi.
Non, mais c'est top en tout cas. Et pour la playlist que tu as sélectionnée, tu la feras ensuite, parce qu'on en avait pas encore parlé avec Jérôme bien, et en plus surtout qu'il y a l'album qui est en cours. Comme l'épisode va pas sortir dans la seconde, je vous la présenterai dans les notes de l'épisode et il y aura un lien avec une playlist d'Amonji spéciale pour Track Record. Je suis trop contente, c'est Noël avant l'heure. Merci beaucoup.
Bien, merci à toi, Pauline.
Jérôme, c'était un plaisir de te recevoir pour ce 13e épisode de Track Record. On te souhaite le meilleur pour ce soir et surtout, on a hâte d'écouter ton album l'année prochaine.
Merci beaucoup, à très bientôt.
Merci.
On dit parfois que l'électro est froide, sans âme, car composée avec des machines. J'espère que ce podcast vous a prouvé le contraire, car il me semble qu'il faut encore plus d'humanité pour produire une musique de ce type qui puisse rassembler autant de gens dans une communion et un engouement qu'on voit rarement ailleurs aujourd'hui. Si vous voulez soutenir Track Record, n'hésitez pas à partager ce podcast et à nous laisser vos commentaires sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et à très vite pour un nouveau Track Record.